Les semaines qui viennent, j'aimerais parcourir l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est une épître magnifique, enrichissante, l'épître de la plénitude. Le Seigneur a un programme pour nous, pour chacun de nous, dans notre vie personnelle, et il a un programme aussi pour notre assemblée. Nous réunis, le Seigneur veut qu'on fasse des choses ensemble. Et tout est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Si nous sondons les Écritures, nous saurons quel est le programme de Dieu pour nous. Une chose est sûre, c'est que Dieu a tout préparé et nous n'avons plus qu'à entrer dans son plan par la foi. Même si les choses que Dieu demande nous paraissent parfois trop élevées ou trop difficiles, où on dit mais on n'y arrivera jamais, il ne faut pas s'inquiéter de cela. Si Dieu le demande, il fournira la force spirituelle pour y arriver, l'amour, la patience, tout ce qu'il nous faut. Comme beaucoup d'épîtres de Paul inspirés par le Saint-Esprit, il y a une partie théologique, si on peut dire, et une partie pratique. Et c'est vrai qu'avant d'agir, il faut connaître. Avant de faire, il faut... Être. Avant de faire, il faut être. Est-ce que je suis un chrétien rempli du Saint-Esprit? Oui, alors je peux agir de façon vraiment divine, conduit par l'Esprit de Dieu à la gloire de Dieu. Mais avant d'agir, de me débattre dans tous les sens, plutôt que de faire ça, j'ai besoin d'apprendre ce que Dieu me demande et ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est donc le but de l'épître aux Éphésiens. Nous allons lire les premiers versets de cette épître. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission ou le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous avez remarqué l'abondance, ça déborde. Ça jaillit. On a l'impression que Paul n'a pas assez de mots parce que le Saint-Esprit en lui le fait déborder pour raconter tout ce que nous avons en lui, en Jésus-Christ. Hein, c'est la phrase qui revient en lui, en lui, en lui. À travers notre Seigneur Jésus, nous avons plein de choses. Et j'aimerais ce matin qu'on parle de notre identité en Jésus-Christ. Nous avons tous une identité humaine. Nous sommes nés dans une famille, nous sommes un homme ou une femme, nous sommes de tel pays, nous parlons telle langue, et nous avons eu telle éducation, nous avons eu tel diplôme, et ça forge une certaine identité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de l'identité, d'énormes troubles, notamment au niveau sexuel, parce que notre société ne donne plus une identité claire. Et beaucoup de gens, à l'adolescence, ne savent plus par où aller. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, la Bible, c'est que tout est clair. Dieu nous donne une identité. Et surtout, si nous sommes croyants en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle identité. Je ne suis plus L'Emmanuel que j'étais avant, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature, dit la Bible. Et donc j'ai une nouvelle identité. Peut-être qu'avant j'étais colérique, peut-être qu'avant j'étais paresseux, j'étais orgueilleux, mais ça c'est fini, c'est ma non-ancienne identité. Ma nouvelle identité en Christ, elle est autrement, autre chose. Bien sûr, on traîne quelque part un peu son passé, son éducation, mais on n'est pas obligé de les traîner et d'être enchaîné par ces choses. On peut être libéré totalement des mauvaises expériences qu'on a eues et on peut être nouveau en Jésus-Christ. Paul, qui écrit, était lui-même une nouvelle identité. Comment s'appelait-il avant de s'appeler Paul ? Saul de Tarse, en hébreu Shaoul, ce qui voulait dire demander. Élevé, donc quand les parents ont donné un nom à Paul, à l'apôtre Paul, c'était ni l'apôtre ni Paul, c'était Shaoul, et ça voulait dire c'est l'enfant rêvé, l'enfant élevé, l'enfant demandé, l'enfant qui va attirer l'attention de tous. Et effectivement, ce garçon a montré des grands talents très vite. Il était à la fois romain et juif, il avait l'enseignement latin et l'enseignement de la synagogue et surtout des grands rabbins comme Gamaliel, et il est devenu un grand penseur, un homme éminent dans la société israélienne, judéenne, le grand rabbin Shaoul. Et puis, il est devenu tellement important qu'il a eu des responsabilités même politiques. Et lorsque les premiers disciples de Jésus, les premiers juifs messianiques, juifs qui croient en Jésus, sont apparus, ont commencé à parler de Jésus, le Messie, Yeshua, le Messie, Paul a dit « il faut faire quelque chose » et les chefs religieux de Judée ont dit « il faut arrêter ces juifs égarés ». Et pour les arrêter, il fallait les condamner, les mettre en prison et parfois les lapider même, les tuer sur place. C'est ce qui est arrivé au premier martyr chrétien qui s'appelait Étienne, qui est mentionné dans le livre des Actes au chapitre 7. Et Shaoul était là, la lapidation d'Étienne, il gardait les vêtements et il devait regarder ça avec contentement en disant « ça marche, on est en train d'éradiquer cette secte nazaréenne ». Et plus tard, alors qu'il avait des lettres pour arrêter d'autres juifs chrétiens, Shaoul voyageait sur son cheval avec d'autres juifs et une grande lumière l'arrête net et le fait tomber de cheval. Et Jésus lui parle en disant « Pourquoi me persécutes-tu ? » Et Shaoul, qui est vraiment choqué par ce qui lui arrive, dit « Mais qui es-tu qui me parle du ciel comme ça ?» Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Car en persécutant les disciples de Jésus, Shaoul persécutait Jésus lui-même. Il s'attaquait à son Messie. Lui qui croyait au Messie, il était en train de travailler contre le Messie. Et à ce moment-là, dès qu'il a entendu cette voix, il a cru que Jésus était le Messie. Bien sûr, on ne sait pas ce qui s'est passé avant dans son cœur, les combats qu'il a eus. Mais là, il a cru. Sur le fameux chemin de Damas, comme on dit. Et très vite, il a changé de nom. Il s'est appelé Paul. Paul est un nom latin, Paulus, et ça veut dire petit. L'homme demandé, l'homme exalté, l'homme extraordinaire est devenu le petit Paul. Sa nouvelle identité, c'était de mettre en avant Jésus-Christ. Il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, ambassadeur, envoyé de Jésus-Christ. Il ne s'est pas envoyé tout seul. Il ne s'est pas appelé tout seul en disant maintenant, avant j'étais rabbin, maintenant je vais devenir apôtre. Non. Quand il a été touché par la grâce, il a accepté le Seigneur, il était aveugle pendant plusieurs jours. Et il était complètement brisé. Et il a fallu que ce soit un disciple qui vienne le fortifier. Et ensuite, il a fallu que le Seigneur lui parle pendant des années en Arabie. Et ensuite, il a fallu qu'il aille voir les autres apôtres pour recevoir de leur part la main d'association qui disait « Oui, tu es un disciple, un apôtre comme nous. » Et donc, avec tout cela qui lui a été donné, Paul est devenu l'évangéliste Paul, le missionnaire Paul, l'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il s'adresse à qui? Il s'adresse aux saints. Dans le dictionnaire Robert, il est dit: dans la religion catholique, un saint est une personne qui, après sa mort, fait l'objet d'un culte public de la part de l'Église en raison du très haut degré de perfection chrétienne atteint durant sa vie. Ça, c'est la définition catholique d'un saint, quelqu'un qui atteint une haute perfection et qui est vénéré après sa mort, même parfois adoré quasiment, et prié, et qui même peut accorder des grâces selon l'Église. Quand vous lisez le Nouveau Testament, le mot saint s'y trouve plusieurs fois, comme ici, hein, dans le premier verset, aux saints qui sont à Éphèse. Croyez-vous que c'était des gens qui avaient une sainteté particulière? Non, en fait, il désigne là les croyants d'Éphèse. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans l'Épître aux Romains que si nous avons Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes appelés saints. Tous, nous sommes appelés saints si nous avons cru. Est-ce que vous réalisez que vous appelez saint? Souvent, on rigole un petit peu, hein, on dit, alors, comment va Saint Stéphane, hein, Saint Abdenour? On dit, oh, je ne suis pas... Mais c'est comme ça que Dieu nous voit et nous appelle. Nous sommes des saints. La question, c'est, est-ce que je me comporte comme un saint? Est-ce que je suis digne de cette nouvelle identité? Si Dieu m'appelle saint, est-ce que j'ai un comportement de saint, une vie de saint? Et attention à ne pas retomber dans les travers humains. C'est-à-dire, une vie de saint, c'est quelqu'un qui est célibataire, qui est dans un coin désertique, qui mange des insectes et qui s'habille avec de la peau d'animaux. Hein. Ce n'est pas ça un saint, une vie de saint. Une vie de saint, c'est une vie qui ressemble à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus, des fois, il était à des repas, des fois, il jeûnait, des fois, il a été à un mariage, des fois, il était avec des gens riches, des fois, il était avec des gens pauvres, avec des lépreux, avec des prostituées. Il a rencontré toutes sortes de personnes, il a fait toutes sortes de choses, mais tout ce qu'il faisait, c'était gouverné par la volonté du Père. Tout ce qu'il faisait était saint. Même quand il prenait un repas avec ses disciples ou avec ses amis, il restait saint. Il ne buvait pas trop d'alcool, il ne racontait pas des histoires salaces ou idiotes, mais il restait saint. Et chaque parole qu'il prononçait avait un impact, avait quelque chose qui vous faisait du bien, qui vous touchait. C'est ça une vie de saint, c'est ressembler de plus en plus à Christ. Et puis, il dit très vite aussi aux fidèles, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'il y a deux catégories dans l'Église? Il y a les saints et les fidèles. Parce que ce verset 1 dit aux saints et aux fidèles. Non, il n'y a qu'une catégorie, c'est les mêmes personnes. Et si nous sommes saints, nous devons aussi être fidèles. Fidèles, ça a deux sens. Ça veut dire qui persévère, hein, dans la foi, mais c'est aussi qui est croyant. Dans fidèle, il y a foi. C'est quelqu'un qui croit avec persévérance, quelqu'un qui s'attache au Seigneur. J'aime bien la parole de Pierre qui dit, hein, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Écoute, pourquoi je te quitterais, Seigneur? Je t'ai suivi jusqu'ici, je n'ai jamais été déçu. Pourquoi j'irais voir ailleurs que le Seigneur Jésus ?» Être fidèle. La Bible dit... Des gens, bon, hein, il y en a beaucoup, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Quelqu'un de fidèle qui obéit au Seigneur, qui n'est pas un coup avec Dieu, un coup avec le monde, un coup avec le diable, mais quelqu'un qui marche avec Dieu, un fidèle. Ça, c'est notre nouvelle identité. Mais ensuite, qu'est-ce que nous avons en Christ? Eh bien, verset 2, que la grâce et la paix vous soient données. On a la grâce et la paix. C'est comme ça que les premiers chrétiens se saluaient. Et si l'envie vous prend de le faire, vous avez le droit de le faire, n'est-ce pas? De saluer les frères et sœurs, que la grâce et la paix te soient données. La grâce, c'est la grâce de Dieu. Et la paix, c'est la paix de Dieu. Et nous avons besoin de ces deux choses pour vivre. La grâce, c'est ce qui nous permet d'être sauvés, d'être pardonnés, d'avoir la vie éternelle, de connaître Dieu. La paix... Eh bien, c'est l'effet de la grâce, hein, c'est ce qui nous donne cette paix profonde. Même dans les difficultés, même dans les épreuves, le Seigneur nous donne sa paix. Le verset 3 commence très fort. Il dit « Béni soit Dieu, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » C'est bon de revoir ce verset régulièrement. Nous entendons souvent dans la prière « Seigneur, veuille me bénir. Seigneur, j'espère que tu vas nous bénir. Seigneur, je prie pour que tu me bénisses ou nous bénisses. » Ce n'est pas une mauvaise prière en soi, ce n'est pas à rejeter complètement, mais le verset dit quoi ici ? Il dit qu'en Jésus-Christ, nous avons été bénis de toute bénédiction. Nous avons été. C'est quel temps ça pour les grammairiens ici ? C'est le passé, c'est déjà fini. En Christ, nous avons été bénis. On a tout. On n'a pas besoin de chercher une bénédiction supplémentaire, elle est déjà là. Mais vous me dites, mais pourquoi alors ma vie ne déborde pas de bénédictions ? Parce que j'aimerais avoir plus de bénédictions. Mais c'est parce que je n'ai pas saisi ces bénédictions. Mais Dieu me les a déjà données. L'exemple trivial qu'on donne toujours, mais c'est quand même, ça aide à comprendre, c'est le compte en banque. Vous dites, mais si j'avais plus d'argent, je pourrais faire plus de choses. Et Dieu vous dit, mais ton compte est approvisionné de façon illimitée. Tu as tout l'argent qu'il te faut sur ton compte. Il suffit de faire des chèques ou de tirer la carte bleue, vas-y. Le compte va être approvisionné en permanence. Là, on dit, oh, ça serait extraordinaire, n'est-ce pas ? Ben, moi, je vous propose mieux, je vous propose d'avoir un compte spirituel. Parce que l'argent, ça ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas ? C'est utile, hein, on a besoin tous de vivre avec de l'argent. Mais quand on en a trop, ça nous tourne la tête, ça devient un dieu et ça nous amène à faire des choses très mauvaises et à être seul finalement. L'argent rend seul. Mais les choses spirituelles, c'est ça qui comble la vie. Et là, on a un compte en banque rempli, toujours approvisionné. Chaque matin, les grâces de Dieu sont là. Nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et c'est là où se trouve notre compte en banque. C'est dans les lieux célestes. Et comment on va retirer son argent dans les lieux célestes, d'après vous ? Par la prière de la foi. Par la prière de la foi. Ce qui nous permet d'atteindre les lieux célestes, c'est la foi. On ne peut pas monter, même si vous prenez l'avion, vous ne serez pas dans les lieux célestes. Hein. Ces lieux célestes sont des lieux spirituels. Et c'est là où se trouve Christ en réalité. Vous savez comme moi que Christ est mort sur la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Et 50 jours plus tard, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté au ciel. Et c'est là, haut, que se trouve le trésor du chrétien. C'est en Christ au ciel. Et comment avoir l'accès à Christ au ciel ? Par la foi. La Bible dit que par son sacrifice, nous avons un libre accès. La porte est ouverte tout le temps. C'est une banque qui ne ferme pas le lundi, ni le dimanche, ni aux heures du soir, de la nuit. La banque spirituelle est ouverte en permanence et le Seigneur Jésus est là. Et on peut prier et recevoir les bénédictions spirituelles. Il nous a déjà bénis. Il y avait cette petite église noire américaine en Louisiane. Ils avaient un petit bâtiment décrépit. Ils étaient une cinquantaine là-dedans. Et franchement, c'était dur. En hiver, ils avaient froid. En été, ils avaient chaud. C'était dangereux, l'escalier menaçait de tomber, l'orgue ne fonctionnait plus, les bancs étaient cassés et ils vivaient dans le désespoir en disant « Seigneur, mais on n'a pas d'argent, on est tous pauvres dans cette église. Est-ce qu'un jour on pourrait avoir une belle église et être plus nombreux, s'agrandir, etc. » Et prier, et prier. Et puis un jour, il y a un promoteur pétrolier qui a fait le tour de leur région. Alors il faisait des sondages dans le sol. Alors, l'église avait son petit jardin derrière, hein, pas très grand, mais. Et alors, il fait une prospection, et quand il enfonce la tige, là, ça jaillit. Ils se sont retrouvés à la tête d'un puits de pétrole, et ils sont passés de la misère, hein, à la richesse totale. Ils vivaient sur un puits de pétrole, ils vivaient sur des dollars, si on peut dire. Et le chrétien, lui, il vit sur un puits de bénédiction spirituelle. Mais j'ai peur qu'il y a des chrétiens qui sont comme cette église, qui sont décrépits, qui ont froid et chaud quand il ne faut pas, qui souffrent, qui sont défaitistes ou défaits ou toujours accablés, qui n'arrivent jamais à avoir une victoire dans leur vie chrétienne ou à aller plus loin, alors qu'ils vivent sur ce trésor spirituel. Nous avons été bénis en Christ dans les lieux célestes, sauf que le trésor, il est au ciel. Hein. Mais il y a peut-être des personnes qui vont être déçues. Dis, moi, j'aurais aimé avoir des bénédictions matérielles. Mais là, il dit spirituelles. Moi, les bénédictions spirituelles, ça ne m'intéresse pas tellement. Je suis comme Ésaü. Vous vous rappelez d'Ésaü ? C'était le frère de qui ? De Jacob, dans l'Ancien Testament. Ésaü, ça l'intéressait tellement peu, les bénédictions spirituelles, qu'il a vendu sa bénédiction d'aîné. Pourquoi ? Un plat de lentilles. Voilà. C'est-à-dire pour rien. Pour presque rien, il a vendu sa bénédiction spirituelle. Parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était se remplir la panse. C'était manger un bon ragoût. C'était, moi, il faut que ce soit matériel. Hein. Il faut que... Voilà. Et Ésaü a perdu sa bénédiction à cause de cela. Est-ce que vous êtes quelqu'un comme Ésaü ? Parce que dans la Bible, Ésaü n'est pas montré comme un exemple. Il est montré comme quelqu'un de profane, c'est ça le sens, hein, qui ne s'intéresse qu'aux choses de la terre. Et ceux qui s'intéressent qu'aux choses de la terre, quand ils vont mourir, ils vont retourner à la terre et leur âme n'ira pas au ciel dans la présence de Dieu. Leur âme ira dans le lieu de perdition éternelle. Ceux qui veulent, comme Jacob, la bénédiction spirituelle, ceux-là sont servis. Béni soit Dieu. Est-ce que vous bénissez Dieu de ce qu'il vous a béni ? Est-ce qu'on remercie Dieu suffisamment de ce qu'il nous a déjà béni ? Il y a même des bénédictions, vous ne savez pas ce qu'il vous réserve, mais elles sont déjà là. Et puis, après, il fait toute une liste de ses bénédictions, entre autres, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Verset 4, il nous a élus avant la fondation du monde. Avant de créer le monde, Dieu nous connaissait et avait déjà préparé le salut en lui, en Christ. C'est-à-dire, en Christ, nous étions déjà préparés, déjà dans le salut. Parce que Dieu voit tout à l'avance. Et notre salut, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous a donné comme ça un jour. Parce qu'il a dit, toi, tu es un bon chrétien, ou toi, tu es quelqu'un qui a bien prié, je vais te sauver. C'est quelque chose que Dieu avait préparé depuis très longtemps. D'abord, il avait préparé qu'il allait venir sur la terre, mourir pour nous. Il avait préparé qu'il mourrait sur la croix et que tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ, qui regarderaient au crucifié, feraient partie des élus. Si vous avez cru un jour, vous êtes un élu. Votre salut remonte avant la fondation du monde. Ça veut dire que vous ne pouvez pas perdre votre salut comme ça. Il continue, il dit verset 5, « Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. » C'est-à-dire que si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes prédestiné à vivre l'éternité comme son enfant. Dans la société romaine, un enfant d'adoption, c'était celui qui héritait de tout, qui héritait. Tous les enfants n'héritaient pas. On pouvait déshériter son enfant. Et donc, à un certain âge, le père de famille disait, « Toi, tu vas devenir un enfant d'adoption. » Il y avait une cérémonie légale où on adoptait son propre enfant. Ça ne voulait pas dire qu'on l'adoptait comme son enfant, on l'adoptait comme héritier. C'est toi qui me remplaceras quand je mourrai. Mais il arrivait parfois que c'était un esclave qui avait tellement bien servi alors que le fils avait vécu dans la débauche. C'était l'esclave qui était adopté comme enfant. Et je dirais que c'est un peu l'image, hein, du peuple de Dieu, du peuple d'Israël et des païens. Le peuple d'Israël, c'est l'enfant qui est né dans la famille, mais un certain nombre, au lieu de suivre la parole de Dieu, ont suivi des traditions humaines. Et eux, ils seront déshérités parce qu'ils n'ont pas suivi le Messie que Dieu leur a envoyé. Et puis, il y a les esclaves, nous, les païens, les non-juifs, on arrive là, on n'est pas de la famille de Dieu au départ. Mais le Seigneur nous adopte si nous croyons en lui. si nous devenons frères avec Jésus-Christ, si nous acceptons le Seigneur. Et alors nous sommes adoptés. Dieu dit « Je t'adopte ». Mais il dit qu'il nous a prédestinés à cette adoption, c'est-à-dire du jour où vous avez cru, déjà vous êtes prédestinés à être héritiers, à être saints, il dit aussi, irréprochables. C'est-à-dire que le moment où vous acceptez le Seigneur, vous, vous ne le savez pas, mais vous le découvrez plus tard. Tout est déjà prêt, vous êtes déjà glorifiés dans le ciel, vous êtes déjà saints, irréprochables, parfaitement justes, dans la gloire de Dieu. Un petit peu comme un artiste, lorsqu'il commence son tableau et que vous le regardez derrière, vous ne savez pas où il veut en venir. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peintre en action. Il y a certains peintres, ils ont une technique très particulière. Ils font des traits comme ça, tac, 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 tac. Vous dites, mais c'est n'importe quoi son tableau. Et puis quand il commence à mettre les dernières touches, il apparaît une image magnifique, hein, un portrait ou un paysage. Vous dites, waouh ! Mais le peintre, lui, il avait déjà le final dans la tête. Mais quand il a commencé, ça ne se voyait pas. Et de la même façon, le jour où vous acceptez Christ, tout ce que vous savez, c'est que vous êtes pardonné. Vous êtes sauvé. Déjà, c'est merveilleux. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est tout le reste que Dieu prépare. Il dit, mon enfant, maintenant tu es un élu. Tu es adopté. Tu es un héritier. Il continue. Hein, verset 7, nous avons la rédemption par son sang. C'est-à-dire, nous avons été rachetés. Christ a racheté tous nos péchés. Tout. Vous me dites, mais vous savez, moi j'ai fait beaucoup de péchés. Je suis très pécheur. Eh bien, Christ est très riche et il a tout racheté. Tout payé sur la croix. Et puis il dit, nous avons la rémission, le pardon des péchés. Là, il n'emploie pas le mot habituel pour le pardon. C'est pour ça que dans certaines Bibles, vous trouvez rémission des péchés. Il emploie le mot enlever, amener au loin. Il a jeté au loin nos péchés. Est-ce que vous pouvez dire, oui, je sais que par Jésus-Christ, mes péchés sont loin, 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 loin. Inaccessibles. Même le diable ne peut pas aller les chercher là-bas. Est-ce que vous croyez cela? Et puis, verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Voilà, les héritiers, c'est ceux qui vont entrer dans la gloire, qui vont hériter de toute la gloire de Dieu. Bien sûr, nous ne serons pas Dieu. Nous ne serons que des hommes, des créatures de Dieu, mais qui seront héritiers. C'est-à-dire que Dieu aurait pu nous sauver, dire, bon, allez, je te pardonne tes péchés, mais tu restes une créature vile et pécheresse et tu as intérêt à bien te tenir à carreau. Et puis quand tu meurs, c'est fini, il n'y a plus rien. Sauf que quand vous lisez la Bible, si vous acceptez le Seigneur, quand vous mourrez, vous entrez dans la gloire. Vous êtes complètement dépouillé du péché, vous devenez absolument irréprochable et saint dans la lumière de Christ et vous vivez pour l'éternité dans la famille de Dieu dans le ciel. C'est ça le programme de Dieu après la mort. Nous sommes héritiers. Pourquoi nous sommes héritiers? Il le dit, verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Verset 12, « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Pour que notre vie soit une gloire. Glorifie Dieu. Les hommes cherchent la gloire télévisuelle. Hein? Ils veulent être des gloires à la télé. Combien cette gloire est vaine et petite comparé à la gloire éternelle que le Seigneur nous réserve. Est-ce que ma vie glorifie Dieu? Hein, il y a un chant évangélique qui dit « Que ma vie te glorifie ». Est-ce que ma vie te glorifie, Seigneur? Est-ce que je suis quelqu'un qui se plaint, qui gémit, qui rouspète, qui se met en colère, qui se plaint de Dieu, qui dit « Mais j'ai pas tout ce que je voulais ». Ou est-ce que vous êtes un chrétien qui commence à saisir toutes les bénédictions et qui loue le Seigneur, qui le glorifie, qui dit « Mais Dieu m'a tellement donné. Dieu m'a tellement donné. » Imaginez encore ce jeune homme qui n'a plus de parents, il est orphelin et il mendie dans les rues. Tout ce qu'il a dans sa vie, c'est les guenilles qu'il a sur lui Et tous les jours, il faut qu'il aille chercher son pain pour manger. Il a très mal au ventre. Il a mal à la tête. Et il ne pense qu'à avoir un bout de pain, récupérer un truc ici et là. Et un jour, il y a un homme très riche et très généreux qui le voit et qui dit « Si tu veux venir dans ma maison, tu peux devenir mon enfant. Je vais t'adopter, tu vas devenir mon héritier. » Et que ce jeune homme, d'abord, il entend ça, il dit « Écoutez, c'est pas drôle de faire des blagues comme ça parce que j'ai pas le temps. Moi, ce qu'il faut, c'est que j'aille chercher à manger. » Mais c'est pas une blague, c'est vrai. Je veux te prendre avec moi et te sauver de cette vie et te donner toute ma richesse, tout mon amour, tout ce que j'ai. Alors l'enfant dit, montrez-moi un petit peu ce que vous avez, mais regarde-moi comment je suis. Est-ce que j'ai l'air de te tromper, de te mentir? Et viens voir ma maison. Il l'amène voir sa maison, qui est un palais magnifique. Et alors le jeune homme accepte. Il dit, moi, oui, je veux être avec vous. Vous avez l'air tellement généreux, moi j'ai plus de parents. Je n'ai que moi et encore, des fois, j'ai plus de force pour manger, pour faire quoi que ce soit. Si vous pouvez faire quelque chose pour moi, oui, je vais tout faire pour toi. Et alors, si vous acceptez, il vous emmène. Et là, il vous donne tout. Tout ce qu'il faut pour vivre, pour manger, pour... Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites, vous commencez à vous plaindre? À dire... Oui, mais quand même, moi j'aurais aimé un peu plus. Hein. Ou moi j'aimerais que vous partiez, j'aimerais avoir toute la richesse, mais pas toi. Ça, c'est le cœur humain. Hein. On veut les bénédictions, mais on ne veut pas le Seigneur avec. Mais quand le Seigneur nous propose le salut, nous qui sommes des dépravés, des mendiants spirituels, hein, qui sommes perdus, le Seigneur nous accorde sa grâce pleine et entière. Des fois, on n'y croit pas, on dit... C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux être sauvé, pardonné de mes péchés. Oui, aujourd'hui, vous pouvez être sauvé, totalement pardonné. Parce que Jésus-Christ a déjà payé, il y a 2000 ans pour vous, toute votre dette. Et ensuite, quand vous entrez, le Seigneur dit, maintenant, je veux te donner tout. Mais est-ce que tu m'aimes? Oui. Et c'est là qu'il y a les deux sortes de chrétiens. Hein, le chrétien qui se plaint et le chrétien qui aime, qui glorifie Dieu. Et je souhaite que cette année, nous glorifions le Seigneur pour tout ce que nous avons. Même si nous avons moins d'argent à cause des difficultés du pays, du chômage, etc., nous pouvons glorifier Dieu pour toutes les bénédictions spirituelles. Et le Seigneur est digne de cette gloire, de cette louange. Célébrons la gloire de Dieu. Si vous êtes un chrétien tout nouveau dans la foi, eh bien, le Seigneur veut que vous fassiez des pas avec lui. Et vous savez que le premier pas, c'est le baptême. Et j'aimerais vous encourager ce matin aussi à vous avancer pour dire « J'aime le Seigneur et je veux le suivre en me faisant baptiser. » Nous allons prendre la Sainte Cène et après la Sainte Cène, eh bien, je donnerai un appel à cette occasion. On va chanter sur le mont du Calvaire. On peut se lever pour le chanter.